Mon billet de la semaine dernière a fait réagir. Des réactions respectueuses et portant sur le fond, tandis que d'autres ont plutôt atteint le fond du baril en termes d'insultes et de procès d'intention. Je laisserai donc de côté ces dernières qui ne méritent pas la moindre attention, si ce n'est que pour dire que dans l'optique de séduire des gens à une cause politique, il est stratégiquement contre-productif d'insulter ses interlocuteurs. Ces derniers marquent donc stupidement dans leur propre filet. Donc, à quoi consistent les premières critiques? Principalement que le projet de pays dépasse la dichotomie gauche-droite et que toutes les questions qui portent sur le rôle de l'individu, sa place dans la société, la nature de l'intervention de l'État, etc., seront débattues une fois la souveraineté réalisée. J'accepte avec joie cette critique comme allant de soi. Voici ce qui devrait effectivement être le cas. Or, le problème, ça ne sera pas le cas du tout. Pourquoi? Et c'est là où il faut distinguer le souhaitable de la réalité. Le mouvement souverainiste n'est plus un mouvement nationaliste en mesure d'englober tous les spectres idéologiques qui existent. Non, la famille souverainiste est plutôt divisée autour de lignes idéologiques profondes qui empêche la formation d'une éventuelle coalition nationale lors d'un référendum, parce que pour certaines de ces tangentes, les questions idéologiques ont tout simplement davantage d'importance que la question nationale. Donc, en d'autres termes, ces derniers subordonnent le pays à des considérations idéologiques. Et c'est ici clairement le cas de Québec solidaire, dont la simple lecture de leur programme politique permettra d'illustrer. Ceux qui s'en donneront la peine réaliseront que pour eux, la souveraineté n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de réaliser un projet idéologique. Ils affirment donc à ce sujet, et je cite, La souveraineté est un moyen de fournir au Québec les outils nécessaires pour réaliser son projet de société et s'épanouir pleinement comme peuple. Leur objectif ne saurait être plus clair. La souveraineté est considérée comme un moyen et non comme une fin, ce qui veut dire qu'en l'absence d'un projet permettant de satisfaire certains principes, le parti ne serait pas membre d'une coalition en faveur de la souveraineté. Voilà la conséquence de voir la souveraineté comme un moyen et non comme une fin. Comme ils le disent, la souveraineté est un moyen pour effectuer, et je cite encore une fois leur programme, une transformation profonde du Québec. Une transformation de quelle nature? Mais qui est essentiellement d'extrême gauche. C'est dans l'ADN de Québec solidaire et personne ne peut le nier. Et cette transformation ne s'effectuera pas après le référendum, mais plutôt avant. Car pour Québec solidaire, et encore une fois, ils sont très clairs là-dessus, tout projet référendaire serait précédé d'une assemblée constituante citoyenne, dont le but serait de rédiger le projet de constitution d'un Québec souverain. Donc, dans les circonstances, le Parti québécois devra leur donner ce qu'il souhaite, donc une constitution dans laquelle sera enchâssé des droits très à gauche et donc, par la suite, difficilement amendables. À défaut de quoi, ils s'opposeront tout simplement au projet référendaire. Québec solidaire est clair. Ces questions entre la gauche et la droite ne seront pas discutées après un référendum comme dans n'importe quelle autre société normale, mais bien avant. Donc, dans un sens, ce sera bien, car les Québécois sauront exactement quels seront, une fois souveraines, les grands principes constitutionnels qui orienteront leur vie par la suite. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est une stratégie perdante, car le refus de se plier à leurs demandes revient à perdre 10 à 15 % de oui potentiel. Et leur donner ce qu'ils souhaitent, c'est aussi perdre le même pourcentage de voix de la part d'individus qui ne voudront pas, et je cite encore, que l'intérêt de la collectivité prime sur n'importe quel autre intérêt, dont les intérêts individuels. Bref, que la liberté collective du peuple québécois mène à leur asservissement individuel. D'où la raison pour laquelle faire des beaux yeux à QS comme si ses membres étaient des alliés potentiels, et la pire des stratégies. Et le PQ a d'ailleurs déjà joué dans ce film quand son ancien chef, Jean-François Lisée, avait tenté une alliance électorale avec QS. Y a-t-il eu alors grande fusion des intérêts spécifiques des deux partis au nom du bien de la nation? Ah non, les membres de QS ont refusé l'alliance. Pourquoi? À cause d'un désaccord idéologique sur la position du programme identitaire du PQ. Alors, ne me faites pas croire que ces gens subordonnent leur projet idéologique à celui de la souveraineté. C'est plutôt l'inverse. Leur idéologie prime sur quoi que ce soit d'autre. Et ils ne négocieront pas. Ils imposeront systématiquement leur point de vue ou, si ça ne marche pas, feront le choix de s'exclure du dit projet. Bref, des maîtres chanteurs. Je le dis et je le répète, il est impossible de négocier avec des idéologues pour qui la négociation signifie tout avoir sans rien donner en retour. La pureté de leur projet idéologique prime sur toute autre cause. Et il va bien falloir le reconnaître un jour. QS est le pire ennemi du Parti québécois. Se coller à eux, c'est se condamner au provincialisme éternel. Et c'est le piège dans lequel le PQ se trouve.